Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la vie symbolique après quelques semaines de vacances qu'on avait pris chacun de notre bord, Jonathan et moi. Puis là, pour revenir, j'ai envie qu'on parle. En fait, j'ai vu ça ce matin, là, c'est la fête dans l'Église catholique de Sainte Marie, Sainte Marthe et Lazare. Fait que ça m'a donné envie de parler du symbolisme de l'actif et du contemplatif. Une chose dont on a déjà parlé les deux avant, mais on n'a jamais parlé en français. Il y a plein d'histoires intéressantes dans la Bible, spécifiquement beaucoup dans l'évangile de Saint-Jean qui comme, sont illuminés une fois qu'on a cette idée-là en tête. Et que pour commencer, j'avais envie de commencer justement avec une des histoires dans l'évangile de Saint-Jean, c'est-à-dire à la dernière scène où on voit une relation intéressante entre l'actif et le contemplatif, c'est-à-dire entre Saint-Pierre puis Saint-Jean. Saint-Pierre, ça va être généralement lui qui est vu comme la figure plus active, puis Saint-Jean, la figure la plus contemplative. Il y a un paquet d'aspects qu'on pourra faire ressortir. Puis pour commencer, j'ai envie d'utiliser justement la dernière scène quand Jésus va dire à ses disciples qu'il y a quelqu'un qui va le trahir. Mais évidemment, les disciples sont curieux de savoir c'est qui va trahir Jésus. Donc là, Saint-Pierre demande, mais en fait, il ne demande pas directement à Jésus, il demande à Saint-Jean. Puis après ça, Saint-Jean, lui, qui est couché sur le cœur du Christ, va demander à Jésus qui va le trahir. Puis après ça, Jésus va répondre. Fait que t'as l'idée que dans cette histoire-là, l'actif va passer par le contemplatif, qui est lui, disons, sur le cœur, sur le centre des choses.
Oui, ça, on voit qu'il y a comme une hiérarchie, là. Tu peux carrément l'imaginer comme une montagne, là. Jésus, il est comme le sommet, puis là, t'as Saint-Jean qui est comme sur son centre, qui est comme lié au centre, en tout cas, qui est lié au milieu. Puis après ça, tu as Saint-Pierre qui reçoit l'information de Jean, puis que lui, il cherche à agir aussi, là, surtout dans l'histoire de la dernière scène où c'est lui qui apporte l'épée, puis lui, il est comme vraiment dans le mode actif, là. Mais tu le vois particulièrement dans l'histoire de cette histoire-là. Quand tu le comprends comme ça, tu peux réaliser que l'histoire de Marie et de Marthe, c'est la même structure. Puis là, tu en as un qui se met au genou du Christ puis qui est là. Puis tu as l'autre qui bouge, qui agit. Puis le Christ dit que c'est Marie qui a eu la meilleure part parce que t'sais, le Christ est là. Puis on peut le comprendre, disons, comme l'idée que l'action doit sortir de l'attention. C'est l'attention, c'est la première aspect. Puis ensuite, l'action vient de l'attention. Fait que tu peux le comprendre aussi. C'est aussi simple de dire que tu ne peux pas dériver de la moralité des faits, là. Tu peux pas dériver les principes de la multiplicité, mais c'est le contraire. L'attention, la capacité de voir l'unité des choses ou de diriger son attention, c'est ça qui va générer le monde ou qui va générer le monde des actions. Fait que si tu portes ton attention, c'est drôle parce que c'est lié. On a des versions populaires de ça aujourd'hui qui sont un peu vulgaires, mais qui sont quand même réelles. L'idée du secret, l'idée de dire que focus sur ton but. T'sais. Genre, si tu veux faire beaucoup d'argent, faut que tu y penses. Faut que tu penses à ça, faut que tu contemples ça. Tu écris une lettre, le mets-la comme quelque part dans ta chambre. C'est l'idée de créer une attention sur quelque chose, puis qu'après ça, le monde va découler de ça. Mais il y a un aspect là-dedans qui est vrai, là, que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, de faire de l'argent ou de gagner, c'est malheureusement pas des attentions qui sont dignes d'un monde complet, là. C'est un monde fragmenté, mais on voit que Marie, elle, puisqu'elle s'attend au Christ, ben là, tout d'un coup, tu pourrais imaginer la même situation, disons, que dans l'histoire de Saint-Jean, qui finalement s'est passé différemment, mais tu pourrais imaginer que Marthe vient voir Marie puis lui demande qu'est-ce que le Christ veut qu'on fasse, qu'est-ce que le Christ attend de nous. Puis là, elle, qui était déjà en situation d'attention, va le dire.
Il y a
Ça,
quelque
on
chose
le voit.
comme ça qui se passe, en
Vas-y,
fait.
vas-y.
Parce que, tu sais, une autre histoire, en fait, avant la scène où Marie et Marthe où Marie est au pied de Jésus puis Marthe est active, il y a la scène de avant la résurrection de Lazare, là, la façon dont ça se passe, c'est encore dans l'évangile de Saint-Jean, justement, où il y a Jésus qui ne revient pas en temps pour sauver Lazare, parce que ben, c'était voulu, il voulait ressusciter, mais quand Jésus arrive finalement à la ville proche de Lazare avec Marie et Marthe. En fait, ce qui se passe, c'est Marthe qui va voir en premier Jésus comme l'actif, là, tu sais, qui va voir Jésus en premier. Puis là, il dit, ben, si t'étais revenu plus tôt, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Puis Jésus dit que Lazare va ressusciter. Là, elle n'est comme pas trop convaincue de ce qui se passe, parce qu'il y a peut-être que Jésus parle de la fin des temps, peu importe, blablabla. Fait que, au final, ce qu'elle a fait, Marthe va voir Marie, qui, elle, était restée à l'intérieur, comme le cœur qui était resté à l'intérieur. Puis après ça, Marie va aller voir Jésus, après que Marthe ait demandé. Puis là, quand Marie va aller voir Jésus, elle va comme pleurer à ses pieds, elle va comme l'implorer. C'est comme le cœur qui va parler à Jésus. Puis après ça, Jésus va pleurer, comme il est ému par le cœur, par la prière des gens qui sont plus proches de lui. Puis après ça, il va aller ressusciter Lazare. Fait que tu as le même genre de structure, là, où c'est, disons, l'extérieur, l'actif, qui passe par le cœur pour demander des choses à la tête.
Oui, c'est vraiment, c'est une super bonne façon de le voir. C'est l'idée du cœur, de la tête. Puis, mais quand tu vois Saint-Jean, c'est exactement ça. C'est comme l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent, si tu veux, c'est comme le point, c'est le cœur. Puis là, c'est de là que sort la, disons, la... C'est ça qui informe la réalité puis qui fait après que la multiplicité a un sens. Là. Fait que, tu peux l'imaginer. Il y a plein de façons que tu pourrais le voir dans la vie de tous les jours. Puis, tu sais, aussi, tu peux le voir, tu sais, même dans le cliché un peu de la famille, tu sais, un peu, disons, le père qui serait un peu autoritaire, disons, qui est un peu comme au-dessus. Puis là, tu sais, la mère qui comment je peux dire, qui va comme amollir un peu le père pour les enfants, tu sais, qui va comme amener, puis aussi qui va être attentif aux problèmes spécifiques des enfants. Puis là, qui va être capable de venir présenter, disons, au père, disons, les questions spécifiques des enfants. Là. Parce que pour le père, souvent, c'est juste du bourdonnement. Là. En tout cas, je dis ça que dans mon cas, c'est comme qu'il y a une affaire, c'est du bourdonnement. Puis là, tu vois, mon épouse, elle vient, puis elle dit, OK, il y a telle chose. Puis là, tu as réussi à comme avoir mon attention, mais de façon plus dirigée. Puis là, après ça, ça découle vers, vers les enfants.
J'ai envie de parler aussi du fait que, tu sais, tu as donné l'exemple du secret qui est comme un peu caricaturé, mais une version de ça plus légitime, disons, là, c'est ce que Jordan Peterson, ton collègue, a fait, là, parce que dans, entre autres, les programmes de future authoring qu'il fait, c'est comme ça qu'il demande aux gens de faire. Il leur demande de, comme, crée-toi une histoire, crée-toi un récit qui t'oriente vers un certain but, comme t'écris pourquoi le but vaut la peine, fait que tu sais, tu te focuses sur le but. En plus, en écrivant, là, tu mets toutes tes idées en ordre vers cette attention-là. Puis après ça, il va te demander d'écrire des actions concrètes pour te rendre vers ce but-là. Fait que ça va ordonner différents aspects de ta vie sous ce but-là. Puis une fois que tu as fait cet exercice comme contemplatif-là pendant, je ne sais pas, une heure ou deux, là, après ça, tu vas aller comme le déployer dans ta vie. Puis il y a plein de recherches empiriques, là, carrément, là, c'est qui montrent que ça fonctionne très bien pour, entre autres, que... Ça augmente beaucoup les notes à l'école de des jeunes. Ça permet à des gens d'avoir d'atteindre un paquet d'objectifs dans leur vie. Fait que là, c'est un exemple super concret puis qui est loin du secret, qui permet de montrer comment... Si tu vas avoir comme, juste comme des bons effets actifs, ben, ça repose sur une contemplation première. Comme tu peux vraiment multiplier les effets du côté actif une fois que tu as la bonne contemplation pour commencer.
Oui. Puis tu sais, tu pourrais prendre un truc comme quand Saint Paul il parle de la foi, puis il dit, tu sais, la foi, c'est la, disons, la confiance dans les choses invisibles ou la capacité de s'attacher aux choses invisibles. Tu sais, tu peux le comprendre au plus haut niveau, mais tu peux aussi le comprendre au niveau plus bas, tu sais. Puis c'est même dans l'histoire de film et tout, c'est que si tu n'arrives pas à concevoir quelque chose, tu ne vas jamais l'accomplir. C'est pas possible. Puis tu le vois aussi, aussi simplement que dans les sports, que, disons, les gens ne conçoivent pas, disons, il y a comme une limite auquel les athlètes arrivent, puis cette limite-là est maintenue, jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il peut la dépasser. Puis là, une fois qu'il a dépassé la limite, là, tout d'un coup, il y a tous les autres athlètes arrivent juste à cause, juste au niveau qu'il a atteint, c'est juste avant le niveau. Fait que là, c'est comme, tu peux réaliser que c'est vraiment comme ça que la réalité fonctionne, dans le fond, que la réalité est ancrée dans la foi. Il faut tout d'abord que tu aies confiance en quelque chose que tu n'as pas encore. Puis que là, tout d'un coup, c'est comme ça que le monde se fait. Sans ça, tu peux pas... même l'avancée scientifique, elle se fait souvent comme ça. C'est-à-dire une sorte d'intuition de quelque chose qui n'est pas encore prouvé. Puis de croire, tu sais, les gens qui croient que... Même Galilée, c'était ça. Parce que Galilée, là, il n'avait pas prouvé que la Terre tournait autour du Soleil. Les gens, ils se trompent. Mais Copernic et Galilée, il leur manquait plein de preuves pour démontrer ça. Mais ils avaient tellement confiance que c'était ça la réalité qu'ils ont comme poussé jusqu'à ce que ça débloque. Là. Malheureusement, des fois aussi, il y a des gens qui utilisent cette structure-là, mais que c'est, ça ne marche pas parce que disons, le désir qu'ils ont ou la foi qu'ils ont, elle n'est pas du tout. Il n'y a pas la potentialité pour le réaliser. Fait que, tu pourrais dire, moi, mon but, c'est de devenir un multimilliardaire en jouant de la guitare. Ben, c'est comme là, ta foi puis la potentialité, il y a pas, ça ne connecte pas ensemble. Là. C'est ça.
Ouais. On peut le voir dans aussi des organisations, là, comme dans des groupes de plusieurs personnes. Là, où, c'est un truc qui m'a frappé là, à la compagnie où je travaille là, en informatique. Comme, ça m'avait surpris de voir que des fois, on fait des gros événements, là, genre je sais pas, de 3-4 jours, où on fait juste comme écouter des présentations. En fait, comme l'aspect liturgique de ça m'a quand même un peu frappé, là, parce que c'est quasiment comme un peu comme entouré par une genre de fête. Mais on a, disons, des présentations où c'est, disons, les dirigeants de la compagnie qui nous montrent c'est quoi le but. Ils nous racontent une histoire, là, mettons, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. Puis on a comme c'est d'autres présentations périphériques autour de ça, puis on a des activités et tout. Mais c'est vous parce qu'on dépense une énorme quantité d'argent là, pour faire ce genre de rencontre-là. C'est pour focusser notre attention vers la même chose. Mais ce qui se passe après, c'est qu'une fois qu'on a tout fait ensemble, cet exercice-là de contemplation, ben après, quand on retourne chacun dans notre coin pour être actif, ben on est encore informé de cette contemplation-là, on est capable de prendre plein de décisions à notre échelle qu'on n'aurait pas été capable de prendre sinon. Qu'on n'a pas besoin tout le temps d'aller poser plein de questions aux gens plus haut. Là. Notre action est informée par cette grosse contemplation collective-là qu'on a faite.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est vraiment un bon exemple. Et puis aussi, l'idée aussi, juste en général, comment la confiance est importante, disons. T'sais, même si on parle pas de la contemplation, mais qui n'est pas liée à l'action, c'est l'idée d'avoir. D'être capable de percevoir, même dans un chef, disons, d'être capable d'avoir confiance en ce chef-là, c'est une sorte d'attention, parce que là, tu n'agis pas encore, tu as une capacité d'avoir la bonne attention envers ton leader, bien, ça va faire en sorte que tu as plus de chances que le projet réussisse, peu importe c'est quoi le projet, que ce soit une équipe de sport avec un coach, ou si les joueurs n'ont pas confiance en l'intention du coach ou sa capacité, bien là, tout d'un coup, l'équipe va aller plus mal juste à cause de ça. Puis c'est ça, puis c'est une autre version de ça. T'sais, dans le fond, on peut voir toutes les différentes versions de la relation entre ce qu'on pourrait appeler l'attention ou capacité de percevoir l'invisible, d'avoir confiance en quelque chose qui n'est pas encore manifesté, puis après ça, la façon dont ça se manifeste dans le monde. Puis après, une fois qu'on a vu ça, on peut saisir aussi que, disons, dans l'Église, il y a comme deux hiérarchies, on pourrait dire. Il y a une hiérarchie qui est explicite, tu sais, la hiérarchie ecclésiastique. Puis après ça, il y a une hiérarchie qui est plus cachée ou qui est plus implicite, qui est une hiérarchie de saints. Les saints n'ont pas de fonction officielle dans l'Église. Tu sais, c'est-à-dire le saint, c'est juste la reconnaissance, l'attention envers la capacité que cette personne-là avait de manifester le Christ sur la terre. Fait que t'sais, les saints n'ont pas le droit de promulguer des canons, ils n'ont pas le droit de décider comment la liturgie fonctionne. T'sais, ils n'ont pas ça, au moins au niveau de leur responsabilité explicite, là. Mais c'est toujours eux qui informent après ça les trucs explicites, disons, la hiérarchie explicite. Un bon exemple de ça, c'est Sainte Catherine de Sienne, qui, elle a vécu comme toute sa vie dans une cellule presque, là. Puis elle n'avait pas d'autorité officielle, mais quand il y avait trois papes en Europe et personne ne savait c'était qui le vrai pape, il y avait un immense conflit politique, bien, c'est à elle qu'on a demandé d'appuyer celle qu'elle voyait comme le vrai pape. Puis finalement, même si elle n'avait pas d'autorité officielle, finalement, c'est celui qu'elle a pointé qui a été choisi finalement comme le vrai pape. Puis non seulement ça, mais l'histoire se rappelle d'elle comme étant celle qui avait comme choisi le pape. Elle n'a pas choisi le pape, elle l'a reconnu, mais c'était le fait qu'elle avait une réputation comme contemplative, une contemplative sans faute, là, qui faisait que tout le monde avait confiance en ça. Puis c'est une des choses aussi qui fait que la contemplation, elle a la capacité de faire ça, c'est parce que la contemplation, elle n'est pas liée à la multiplicité puis au conflit politique, en théorie. C'est-à-dire que puisque l'attention est pure, bien là, on peut avoir confiance en son jugement parce qu'elle n'a pas d'intérêt dans dans le monde de l'action. Elle a moins d'intérêt dans le monde de l'action. Un autre exemple, c'est que quand ils ont fini le concile de Nicée, je pense que c'est le concile de Nicée le premier, je ne suis pas 100% sûr, mais je ne suis pas mal sûr que c'est carrément le concile de Nicée, ils ont apporté le texte du concile de Nicée à Saint-Siméon le stylite sur sa stèle pour qu'il dise que oui, en effet, le concile était juste.
Pour les gens qui ne comprennent pas, là, sur sa stèle, c'est une genre de tour. Là, que ouais. Saint-Siméon y a passé comme presque toute
40
sa vie.
Ans, 60 ans, je ne sais pas, sur une tour de 60 pieds d'eau. Où il faisait juste rester là toute la journée et faire des métanies, là, se prosterner. Les gens comptaient qu'il faisait comme 1000 prosternes. Il se prosternait 1000 fois par jour. Puis c'est juste ça qu'il faisait. T'sais. Là, tu dis, t'sais, pour nous, des modernes, ça semble tellement absurde de penser que cette personne-là, c'est elle qui pourrait décider si un concile est orthodoxe ou non. Mais c'est vraiment comprendre que lui-même, tout par rapport à lui, t'sais, le fait qu'il est en haut sur une stèle seule, le fait que tout ce qu'il fait, c'est prier toute la journée. Il devient comme un genre de phare, là, pour même tu peux l'imaginer comme un phare là, en haut là, sur son truc. Puis c'est pas pour rien aussi que les moines ils montent souvent sur des montagnes, qui sont dans des donc leurs cellules sont haut dans les montagnes aussi. Là, c'est relié à ça.
Ouais. Il y a des exemples de. Comme, apparemment, dans l'histoire, ça arrivait assez souvent que il y a eu un phénomène des anchorites, je pense que ça s'appelle en français. Là, c'était souvent. C'était des individus, souvent des femmes très pieuses, qui allaient comme avoir une cellule dans une cathédrale, qui allaient passer comme toute leur vie dans cette cathédrale-là. Fait que là, tu as encore vraiment comme une figure qui est très contemplative, là, qui fait juste prier, puis qui n'a aucun pouvoir officiel. Mais ce qui allait se passer avec ces individus-là, qui font pas juste toute leur vie à prier, là, ben, c'est, il allait avoir une grosse influence quand même sur l'évêque qui était à cette cathédrale-là, qui lui représente le pouvoir officiel, là, disons, actif là, dans le monde. Fait que tu as cette relation-là entre le cœur qui fait juste prier comme qui est dédié toute la journée à Dieu, puis le pouvoir actif comme de l'évêque là, qui va après ça avoir un pouvoir structurel officiel dans l'Église. C'est comme Saint-Pierre et Saint-Jean dont on parlait au début, parce que c'est Saint-Pierre qui est la tête de l'Église, la roche visible sur laquelle comme Jésus pose une structure. Puis Saint-Jean, à l'inverse, c'est une genre d'influence invisible. Il n'est même pas nommé dans le...
C'est ça, il est dans l'Évangile. T'sais, nous, on dit que c'est Saint-Jean, mais il ne faut pas oublier que dans l'Évangile, ça ne dit pas une place, pas une fois que c'est Saint-Jean dont on parle. T'sais, et quand il est couché sur le Christ et dans les autres moments où il parle de lui-même, c'est vraiment comme un peu une genre de... C'est une genre de tradition secrète qu'on sait que c'est Saint-Jean qui est mentionné, qui parle de lui-même. Là. Fait que déjà, en plus, ça entre encore plus dans l'imagerie qu'on a là, de Saint-Jean comme l'apôtre mystique qui est caché. Là.
Puis tant qu'ils travaillent bien les deux ensemble, ben là, l'Église va fleurir. En fait, on a donné des exemples tantôt que toutes les organisations, que ce soit un individu ou un groupe, une famille, une entreprise, peu importe, quand le côté actif et contemplatif fonctionne bien, ben l'organisme en tant que tel va bien fonctionner. Donc là, tu peux voir que Jésus a fait ça, disons, en lui-même, il y avait la bonne harmonie entre l'action et la contemplation. Tu peux voir plein de moments où il fait juste comme il se retire, il prie vers son Père, ça c'est le côté contemplatif. Puis après ça, il y a le côté actif qu'il va faire aussi, d'aller enseigner aux gens, puis d'aller ultimement se sacrifier, quelque chose de très actif. Puis après ça, tu vois les deux branches dans l'Église entre Saint-Pierre et Saint-Jean qui vont être l'actif contemplatif, qui vont avoir une relation complémentaire. Puis on le voit dans l'Évangile de Saint-Jean, on le voit aussi dans les Actes des Apôtres, il y a quelques moments où quand les deux sont ensemble, ils vont faire beaucoup de miracles. Mais j'ai envie de parler de justement d'autres histoires dans l'Évangile de Saint-Jean qui utilisent encore ce pattern-là. Je pense que dans le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre, là, il y a un moment où les apôtres sont en train de pêcher. Comme c'est après la résurrection, mais Jésus n'est pas là présentement, puis les apôtres s'en vont pêcher. Puis c'est Pierre d'ailleurs qui donne l'envie active d'aller, comme on va aller pêcher, on va aller faire quelque chose, on va aller. C'est pêcher, c'est aussi une image de l'Église. Il s'en va. Pêcher. Quand ils sont en train de revenir à la rive, ils ont comme pêché aucun poisson, mais quand ils reviennent vers la rive, il y a Saint-Jean qui voit. En fait, si je me rappelle bien, corrige-moi si je me trompe, il me semble que c'est la personne sur. Il voit une personne sur la rive qui leur dit à ce moment-là, je pense, de jeter leur filet à l'eau. Puis là, ils vont pêcher plein de poissons. Puis ouais. Là, c'est Saint-Jean qui va dire ah, ben, cette personne-là sur la rive, c'est Jésus. Fait que tu as l'idée que c'est le cœur. Le premier à repérer la source, repérer la tête, Jésus sur la rive. Tu avais l'actif comme Pierre qui avait commencé l'affaire. L'individu qui repère le centre, ça va être le cœur, ça va être Saint-Jean. Puis après ça, une fois que ça se passe, par exemple, là, Saint-Pierre, il saute à l'eau. Il s'en va direct vers Jésus parce que c'est lui qui est actif. Puis après ça, pas longtemps après, Là, ce qui va se passer, c'est que Saint-Pierre va, excuse, Jésus va prendre Saint-Pierre à l'écart, puis il va lui raconter qu'est-ce qui va se passer. Là. Fait que là, il dit, c'est là que le passage où il demande Saint-Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Ouais,
là,
Saint-Pierre, tu, ouais.
Saint-Pierre doit dire oui, puis ultimement, ce que Jésus dit, c'est ben, si tu m'aimes, fais quelque chose d'actif, comme occupe-toi de ma.
Appelle mes brebis, là.
Ouais. Occupe-toi de mes brebis. Puis après ça, il passe à côté de Saint-Jean. Puis là, Saint-Pierre, il est curieux. Qu'est-ce que Saint-Jean va faire? Puis là, Jésus dit que Saint-Jean, il va juste comme attendre. Il va prier, il va rester contemplatif jusqu'à temps que Jésus revienne. Puis il dit à Saint-Pierre de comme pas s'en occuper.
Oui, mais c'est un des versets les plus mystérieux de la Bible parce qu'il dit, si je veux que celui-ci reste jusqu'au grand jour, là, il dit, c'est pas ton problème, dans le fond, c'est pas à toi. Puis c'est ça qui ça dit dans le texte que là, ça allait amener la rumeur que Saint-Jean n'allait pas mourir. Là. Mais tu peux le comprendre de façon un peu plus mystique, qui est que c'est le Christ qui va préserver, disons, l'âme du christianisme, tu sais. Puis que c'est pas par les actions extérieures que ça va se faire. Puis c'est un peu, disons, c'est un peu la tentation de Saint-Pierre, tu sais, en général.
Ouais.
C'est comme le côté fort de Saint-Pierre, c'est d'être la fondation, d'être le pasteur, d'être toutes ces choses-là. Mais le côté négatif de Saint-Pierre, c'est aussi une sorte de vouloir entrer dans le mystère de façon... ou de vouloir contrôler le mystère, on pourrait dire. Là, on le voit en partie quand il dit au Christ que le Christ ne va pas mourir. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne saisit pas de l'intériorité de ce mystère-là. Fait que c'est ça le mystère de Saint-Pierre. C'est pour ça qu'il c'est celui qui sort de la barque, c'est celui qui coule, c'est celui qui dit « je ne vais pas te renier ». C'est le premier qui reconnaît le Christ comme le Messie, c'est lui qui le renie. C'est vraiment assez mystérieux parce que tu peux voir, c'est ça, tu vois que c'est comme si c'est la dualité de la manifestation, là. C'est qu'il peut être attaché au centre ou qu'il peut être tourné vers l'extérieur ou détaché du centre. Tandis que Saint-Jean, vu qu'il est comme dans le cœur, ben, il y a moins de danger il y a moins le danger de la dualité de l'action.
Oui, ouais, ça, ben, Jésus, il dit à Saint-Pierre que Saint-Pierre va être martyr, là, qu'il va aller jusqu'à la mort, comme, jusqu'à la toute fin. Fait que, il va comme se perdre. Où est-ce qu'il va aller, versus Saint-Jean qui reste comme stable au cœur. Puis, ça nous amène à l'histoire dont on n'était pas sûr qu'on allait parler parce que c'est indifficile celle-là, mais elle est intéressante. Là. On ne peut comme pas s'empêcher de la parler parce qu'il y a quelque chose de profond qui se passe là-dedans aussi. Là. Un autre passage mystérieux quand c'est à la scène de la résurrection, toujours dans l'évangile de Saint-Jean, où il y a je pense que c'est Marie-Madeleine dans cet évangile-là, qui vient dire aux apôtres que Jésus n'est pas dans sa tombe. Puis là, Saint-Pierre part en course. Il se fait rattraper par Saint-Jean. Mais Saint-Jean, quand il arrive à la tombe, il fait juste rester à l'extérieur. Saint-Pierre y arrive après. Mais dès qu'il arrive, comme il rentre dans la tombe, il voit les vêtements. Puis après ça, ça dit que Saint-Jean va... Je pense que Saint-Jean rentre aussi à ce moment-là.
Ouais.
Il regarde, il voit aussi. Mais là, ça dit qu'il voyait ou il comprenait. Il y a comme...
Là, qu'il croit. Ça dit qu'il a cru, en fait.
Okay, okay.
Fait que c'est tellement mystérieux. Cette histoire-là, ça fait des décennies que j'essaie de méditer complètement sur c'est quoi. C'est clairement quelque chose. Ils veulent clairement nous montrer une relation entre Saint-Pierre et Saint-Jean. C'est un peu leur fonction ontologique, on pourrait dire. Puis on voit, c'est un rapport avec l'action, l'extériorité et l'intériorité, mais l'espèce d'échange qui se fait, il est difficile à saisir, il est difficile à appliquer, on pourrait dire. Parce que, tu sais, moi, la façon que j'essaie de toujours vérifier si j'ai compris, c'est de dire, OK, je peux-tu l'appliquer à plein d'autres trucs? Tu sais, je peux-tu prendre ce pattern-là et l'appliquer? Mais dans ce cas-là, j'ai beaucoup de difficulté à l'appliquer.
Oui, la seule chose dont je voyais que j'étais capable d'appliquer, c'était un genre de relation entre l'action et la contemplation, un genre de relation qu'on doit avoir entre, disons, la réflexion puis l'action, où si on veut apprendre quelque chose, on va avoir besoin d'une genre de course entre les deux, justement. Là. Si on peut avoir une idée de quelque chose, là, disons, il y a un aspect contemplatif sur quelque chose, on essaie d'apprendre sur quelque chose, et après ça, tu n'as pas le choix de courir un petit peu aussi activement vers cette chose-là, comme de l'essayer, puis là, de te planter, puis après ça, de revoir, recontempler comment est-ce que les choses se passent. Fait que, tu dois faire toujours une course entre les deux pour réussir à saisir quelque chose.
Ouais. Mais tu pourrais l'imaginer comme, tu sais, gars, je peux te l'amener, moi, je peux t'amener jusqu'à la tombe, ça a du sens. Parce que je pourrais dire, disons que Marie-Madeleine, elle arrive et elle pose un problème. T'sais, elle amène un truc qui est comme incompréhensible.
Ouais.
Qui est comme qui est hors des normes. Puis là, tout d'un coup, celui qui va en premier percevoir ça, ça va probablement être dans l'action. Parce que lui, il voit le problème. T'sais, aussi, c'est quelqu'un qui est dans la multiplicité, c'est là que c'est lui qui va voir le problème. T'sais, OK, il manque de vin. T'sais. Comme la mère de Dieu a dit, il manque de vin. T'sais, c'est vraiment un problème particulier. Là. C'est vraiment un genre de problème dans le monde. Puis là, fait que là, c'est comme l'action. Dans le monde d'action, ça démarre, mais tu n'arrives pas, tu ne peux pas y arriver par l'action. Tu as besoin de l'intuition, tu as besoin de la contemplation pour percevoir, disons, le mystère de ce qui va comme mener à la solution de ce problème-là.
Mm-hmm.
Mais là, peut-être que c'est ça, dans le fond, une fois que tu arrives, bien là, pour compléter le puzzle, bien là, il faut que l'action, comment je pourrais dire, faut que l'action elle remplisse le problème. Là, faut que, là maintenant que ça se remplit, là, répondre à la question, répondre au problème, répondre au cadre. Là.
Puis, je pense
mais c'est pas clair, c'est pas totalement clair pareil. Puis là, après ça, c'est comme. Là aussi, tu as un peu l'idée, peut-être, tu pourrais dire que là, une fois que l'action, la contemplation sont unies, bien là, Saint-Jean, il perçoit comme le monde, là, il voit l'union des deux, puis c'est ce qui fait qu'il. C'est ce qui fait que c'est comme si là, l'histoire est finie, là, il a vu, t'as le problème, là, t'as l'intuition, t'as le problème, puis là, tu commences à pédaler parce qu'il y a un problème, là. Là, tu n'écoutes, t'as l'intuition de la solution. Mais là, il faut que ton intuition matche avec le problème. Ça se fait dans l'action. Puis là, après ça, ben là, tu as le bébé, tu as l'enfant, tu as le fruit de ce monde-là, qui est comme l'union des deux. Puis là, tu es comme, OK, I get it. Je comprends. Mais c'est le mieux que je peux faire.
Mais peut-être un truc qui ressemble un peu à ce que tu venais de dire, l'expression que j'avais entendue pour le moment où il rentre dans la tombe, là, c'est que disons, les contemplatifs sont quand même soumis extérieurement à la hiérarchie officielle.
Ouais,
c'est un peu sûr. Comme tu disais tantôt que Saint-Siméon, même s'il y avait le pouvoir implicite, il se soumettait explicitement à toute la structure ecclésiale de l'Église.
Il y a même une histoire dans l'histoire de Saint-Siméon, d'ailleurs, qui montre ça, parce qu'au début, les gens pensaient que Saint-Siméon, dans le fond, c'était juste de l'orgueil qui faisait ça. Puis là, un des évêques ou un des responsables de l'Église, il est allé le voir, puis il a dit, OK, il dit, descend ta stèle. Puis tout de suite, Siméon a commencé à descendre de la stèle. Puis là, le responsable dit non, reste, c'est bon. C'est comme vu que tu étais prêt à descendre, je veux pas que tu descendes, là, je veux que tu restes. Fait que c'est une bonne image où, tu sais, la différence. Moi, le pire, c'est que j'ai souvent pensé ça, la différence entre un vrai mystique et un faux mystique, c'est que le vrai mystique, il reste soumis, même si c'est juste extérieurement à la structure du monde, parce qu'il veut pas la détruire. T'sais, son but, c'est pas de détruire le monde.
Ouais. Fait que j'avais entendu, entre autres, des catholiques dire ça, là, que c'est l'idée que, rendu à la tombe, les contemplatifs sont quand même soumis à Saint-Pierre. Comme Saint-Jean ne va pas comme outrepasser ce qu'il peut faire officiellement. Il peut comme rester à l'extérieur, il peut même comprendre, mais comme il va attendre le discernement de l'Église sur ce qui se passe.
Oui, intéressant. C'est peut-être une bonne façon de le voir. T'sais. De voir qu'il y a besoin de la structure extérieure aussi pour comme. Oui, ça, pour donner corps à son intuition, là, parce qu'il ne veut pas te déroger. Mm-hmm. Puis c'est un peu tu vois, c'est un peu le problème des gens de mystique contemporain aussi, là, les gens de New Age ou toute la question des psychédéliques qu'on voit en ce moment, c'est que les gens, ils ont des sortes d'intuitions, puis ils n'ont pas de corps, ils n'ont aucun corps dans lequel la mettre.
Mm-hmm.
Puis ça peut les rendre fous. On voit les gens qui deviennent un peu disjonctés. C'est comme les choses commencent à se séparer. Puis aussi, non seulement ça, mais ils deviennent subversifs. T'sais. C'est comme un esprit sans corps. Là. Ça peut être vraiment dangereux. Hein.
Même pour eux-mêmes. Là, comme s'il y a beaucoup de gens qui, entre autres autour de certains penseurs traditionnalistes, là, qui c'est vraiment tentant de tomber dans ton propre monde d'idées de symbolisme, là, de devenir un genre de cyclope là, où tu fais juste voir les choses avec ton troisième œil, puis de perdre le contact avec ton corps, avec la réalité. Là. Je ne sais pas. Ben, là, je mentionne les cyclopes, c'est un genre de créature comme ça, mais je ne sais pas, on a-tu des histoires dans la Bible, disons, de gens qui font ça, disons, comme perdre leur corps en montant trop dans l'abstraction, comme la contemplation.
Il y a des gens qui se font, oui, il y a des gens qui se font enlever, mais dans l'histoire des gens qui se font enlever vers le ciel, c'est ça. Mais c'est vu plus comme un truc cosmique. C'est-à-dire que, disons, tu as comme le prophète, tu as Élie. Puis là, tu as l'idée qu'Élie, il tient le monde ensemble par son intuition, par sa capacité mystique. Mm-hmm. Puis là, pour punir le monde, on dirait, là, ou pour que le monde se change, ou pour que le monde finisse, ou pour qu'il y ait comme un nouveau monde qui commence, bien, l'aspect intuitif, elle va se faire enlever. Puis là, il y a comme un éclatement, puis là, le monde recommence. Et dans l'histoire, Enoch, c'est un peu ça, comme ça, c'est vu. Là. C'est-à-dire que c'est Enoch est enlevé du monde, puis là, c'est une des choses qui cause le déluge. Il y a aussi, même les Juifs, il y avait l'idée que, quand on lit dans Josephus, par exemple, il y a l'histoire que la mort de Saint-Jacques, même pour les Juifs, ils considéraient Saint-Jacques comme un juste, que la mort de Saint-Jacques était vue comme la cause de la destruction de Jérusalem. Qu'à cause qu'ils ont tué Saint-Jacques, qu'ils l'ont comme enlevé du monde, bien là, ça crée comme ça fait que le monde s'est dissous finalement. Tu peux imaginer Dieu qui l'enlève comme pour que le monde se dissout, le ciel l'enlève, disons, ou que les gens tuent le juste, puis là, les choses éclatent. Fait que oui, dans ce sens-là, mais je ne sais pas si j'ai déjà vu ça dans un personnage. Bien, oui, peut-être on pourrait voir quelqu'un comme Salomon, là. Tu sais, que Salomon, c'est un peu ça qui est arrivé. C'est comme il est allé trop loin dans une sorte de sagesse ou une sorte de connaissance, disons, trop loin dans la connaissance. Puis à un moment donné, ben ça l'a fait que le royaume a éclaté. Mm-hmm. Tu sais, que c'est ça la cause un peu de la... Ouais. Une des causes de la chute du royaume d'Israël, c'est le péché de Salomon, là, qui était d'aller trop haut dans la connaissance sans garder les pieds sur terre.
Ouais. Ouais. C'est bon. Je pense qu'on a dit pas mal ce qu'on devait dire sur ces deux aspects-là, du contemplatif et de l'actif. À moins qu'il y avait d'autres choses que tu aurais en tête, Jonathan?
Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est comme pour les gens qui regardent, de toujours se rappeler, tu sais, qu'on parle des choses dans la vraie vie, que quand on utilise des histoires, oui, on parle du Christ, ou on parle des disciples, ou on parle de la vie spirituelle, mais pour que quelque chose soit vraiment vrai, il faut être capable ensuite de voir comment ça se réfracte, disons, au niveau fractal, de façon fractale dans toutes les différentes structures. Fait que vous pouvez comprendre aussi la façon dont on parle ou la raison pourquoi on parle de cette façon-là, qui est toujours de trouver des exemples, disons, dans la vie commune ou des exemples dans d'autres domaines pour voir si notre intuition sur le sens de l'histoire est bonne. Fait que c'est pas juste une question d'application morale, mais carrément une question d'application ontologique, là, d'une structure de la réalité, puis de croire vraiment que le Christ, le Logos divin, c'est ce qui nous... La première chose qui nous manifeste, c'est ça. C'est il nous démontre, il incarne la structure de la réalité même. Fait que ses histoires, les paraboles, tout ça, c'est toujours en train de tout d'abord nous montrer ça, puis de façon secondaire, ensuite, on peut dériver d'autres sortes d'interprétations.
Ouais. Ben c'est comme on vient de dire, en fait, c'est drôle. Là. Justement, tu sais, quand on regarde l'histoire en tant que telle dans sa forme pure, là, mais c'est une forme de contemplation. Fait que là, ouais. Si on reçoit quelque chose, mais après ça, il faut qu'on le teste. Il faut qu'on voit si ça a vraiment un corps. Là. Fait qu'on fait, disons, le travail plus actif d'essayer d'aller voir, OK, est-ce que ça s'applique dans une famille, dans une entreprise, dans une personne. Puis c'est ça qu'on a fait comme pour tester, là, je m'en étais pas rendu compte, mais pour que notre conversation marche, il fallait aussi qu'on ait cette structure-là du contemplatif puis de l'actif, là, comme de regarder les histoires desquelles on va tirer des patterns purs, puis après ça, de voir est-ce qu'on est capable de les faire atterrir dans le monde. La réalité à différents niveaux.
Okay. Oui, puis c'est vraiment important, surtout dans un monde où les gens, à cause de notre matérialisme, on a beaucoup de difficultés à saisir les histoires traditionnelles. Puis à cause de ça, des fois, ces histoires-là peuvent être un peu dangereuses s'ils sont juste pris comme au premier niveau, puis ils sont juste pris comme ou qu'ils sont juste pris dans un angle extrêmement serré. Là. C'est ça qui crée des fissures dans l'Église, les sectes. Tout c'est ce genre de choses-là où les gens prennent une histoire, puis là, au lieu d'essayer de voir comment elle s'intègre dans le carrément le puzzle de la réalité, ils essayent juste de s'acharner sur ce qui est écrit, là, puis pas être capable de le comprendre, disons.
Mmh. Ouais, parfait, ça. Ça finit mieux que je pensais. Je n'avais pas deviné qu'on avait exemplifié.
On est allé jusque-là.
Parfait. Ouais, merci beaucoup, Jonathan.
Ouais, merci puis, à tout le monde pour votre attention. Puis on va continuer toujours comme ça.
À bientôt.
Salut.